Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans son livre « Esthétique de l'Oulipo », paru en 2006 au Castor Astral, Hervé Letellier soulignait dans un chapitre intitulé joliment « Civilité de la contrainte » les liens unissant l'ouvroir de littérature potentielle et la ville. « Ce qui semble le plus intéresser l'Oulipo dans la ville, écrivait-il, c'est sa potentialité. Car quoi de plus contraint qu'une ville, quoi de plus combinatoire que ses flux et circulations, de plus maillé que ses rues et ses artères ?» En 1996, invité par Jean-Baptiste Parra dans l'émission Poésie sur parole, Jacques Jouet, membre de l'Oulipo depuis 1983, avait proposé de donner à entendre plusieurs de ses poèmes de métro, dont une sélection fut éditée 4 ans plus tard chez POL. Mais qu'est-ce qu'un poème de métro, me direz-vous ? La réponse va vous être donnée tout de suite par l'auteur lui-même, dans le tout premier des poèmes qu'il lisait dans cette émission, diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 février 1996.
Poésie sur parole, Jean-Baptiste Parra. Récital, Jacques Jouet. Jacques Jouet est né en 1947. Il est poète, romancier, auteur de nouvelles et de pièces de théâtre. Il est membre de l'Oulipo et, à l'instar d'un Raymond Queneau ou d'un Georges Perec, il aime soumettre l'écriture à une série de règles et de contraintes. Les poèmes qu'il va dire aujourd'hui peuvent être tenus, au sens le plus noble du terme, pour une œuvre de circonstance. En effet, ils ont été écrits spécialement en vue de cette émission. À ce premier défi s'en ajoute immédiatement un autre. Ces poèmes n'ont pas été écrits dans une chambre, dans un bureau, ni même à la terrasse d'un café, mais dans le métro parisien. C'est là une nouvelle contrainte que s'est imposée Jacques Jouet. Il en est d'autres, dont il s'expliquera lui-même dans un préambule qui vaudra ici comme discours de la méthode. Les poèmes du métro de Jacques Jouet nous rappellent qu'aujourd'hui comme hier, les règles et les contraintes, loin d'émousser l'invention, lui offrent au contraire un stimulant. Elles ne restreignent pas l'imagination, mais en exaltent les pouvoirs. Ce qui s'offre à nous dans ces poèmes du métro, c'est une combinaison d'expériences, un inventaire de choses vues, un échantillonnage de rêveries. Si la règle du jeu donne au poème des accents ludiques, l'humour de Jacques Jouet y est à son aise. Écoutons les poèmes du métro. La ville et les mots vont y croiser leur réseau de signes.
Poème de métro. Qu'est-ce qu'un poème de métro ? J'écris de temps à autre des poèmes de métro, ce poème en est un. Voulez-vous savoir ce qu'est un poème de métro ? Admettons que la réponse soit oui, voici donc ce qu'est un poème de métro. Un poème de métro est un poème composé dans le métro pendant le temps d'un parcours. Un poème de métro compte autant de vers que votre voyage compte de stations moins un. Le premier vers est composé dans votre tête, entre les 2 premières stations de votre voyage, en comptant la station de départ. Il est transcrit sur le papier quand la rame s'arrête à la station 2. Le deuxième vers est composé dans votre tête, entre les stations 2 et 3 de votre voyage. Il est transcrit sur le papier quand la rame s'arrête à la station 3, et ainsi de suite. Il ne faut pas transcrire quand la rame est en marche. Il ne faut pas composer quand la rame est arrêtée. Le dernier vers du poème est transcrit sur le quai de votre dernière station. Si votre voyage impose un ou plusieurs changements de ligne, le poème comporte 2 strophes ou davantage. Si par malchance la rame s'arrête entre deux stations, c'est toujours un moment délicat de l'écriture d'un poème de métro. Cette rame, ce soir, j'ai dû courir pour l'attraper. Un léger essoufflement ne m'empêchera pas de composer. Et pas davantage la voix d'un vendeur de journaux comme il s'en présente de plus en plus. Sa voix contre la mienne, comme on dit par défi, sa parole contre la mienne. Si j'ai une voix, c'est qu'une voix est un morceau de réel, présente une frontière, des bords, une enveloppe, une peau, à compter de quoi commence la peau identitaire et fermée de quelqu'un d'autre. Deux voix ou davantage peuvent coexister, co-sonner dans un même temps et un même espace, tout comme le sac de moi-même peut mêler ses anses avec le sac de toi-même, et comme les contenus dont nous sommes curieux peuvent devenir cadeaux. Ce n'est pas un geste de la main qui décide du début d'un entretien, sauf en cas de sourd-muet, autrement c'est la voix, qui badigeonne au moyen d'un petit ensemble d'ondes codifiées, l'oreille du sac qui d'ordinaire ne reste pas non plus sans voix. Plutôt qu'un message, je préfère appeler cet ensemble une phrase, dont la dimension strictement utilitaire ou comestible passe au second plan. Une phrase qui n'a à dire que je suis gardienne d'une voix, preuve de la seule perpétuité dont je sois à peu près capable, la petite perpétuité que représente l'heure à venir. Si la voix se plie au poème, et par exemple ici au poème de métro, c'est en raison d'un souci quotidien de pesage. Tout comme la voix naturelle, celle des questions-réponses, ne sonne jamais qu'à rebondir au fronton gradué d'une autre voix naturelle. Comme le métro est silencieux ce matin de bonne heure. Les voyageurs en couple qui parlent, ils chuchotent. Gravité, pourquoi pas, plutôt que tristesse ou qu'ennui à se rendre au travail et fatigue un peu, que les touristes matinaux respectent. Et moi, je fais des écritures pour essayer de dégourdir la part du monde qui passe par ce petit cours d'encre. Des phrases et des vers décalés les unes par rapport aux autres. Et sachant que les bouchées doubles du monde et de la voix doivent également passer par le diamètre du tuyau de la colonne d'air. Pour qu'un poème à l'autre bout soit lisible et audible, il faut qu'il cogne une autre voix qui écoute, en position d'écoute et virtuellement de réplique, avec, ne pas oublier, des silences digestifs. Pourquoi la rame donne-t-elle l'impression d'accélérer entre les Sablons et Pont de Neuilly, juste avant que nous sortions brusquement au jour ? J'ai parfois derrière la tête l'amorce du poème de métro avant de m'embarquer pour l'écrire, pas aujourd'hui. Quand j'écris des poèmes de métro, j'en fais un tous les jours. Si je fais la grève de la production des poèmes de métro, pas un usager ou pas un client ne viendra s'en plaindre. Et si cette remarque morose n'était pas tout à fait fondée ? Voyons un peu. Ayant promis à Jean-Baptiste Parra de lui livrer pour le 15 janvier 1996 entre 21 et 23 minutes de poèmes de métro composés pour l'occasion, si par exemple je l'appelais le 14 du haut de mon piquet de gréviste, il trouverait sans doute que je n'ai plus toute ma tête à moi. Et je ne vois pas très bien en plus ce que je me sentirais la force de revendiquer. Augmentation d'estime, point de retraite au flambeau, sécurité, non insécurité, mais seulement dans le découpage mesuré qui atteste pour moi du poétique. Sait-on bien, lorsqu'on prend le métro, qu'on ne prend jamais tous les métros ? Qu'il y a d'autres métros concurrents qui, sans doute, en prennent d'autres ? Des semblables à nous-mêmes qui, pour autant, ne supporteraient le possessif que difficilement. Du métro lui-même, je ne dis que rarement mon métro. Tard le soir, le dernier, il ne faut pas que je rate mon métro. Métro au-delà de l'heure duquel il n'en est pas un seul autre, et qui m'est ainsi réservé comme un dernier soupir, un dernier intime voyage. Je réfléchis à une vie d'humain qui se développerait en arborescence, pour lequel et laquelle, dans l'alternative, le refus ou l'impossibilité de choisir serait la règle. Une vie aussi précisément organisée qu'un réseau de transports en commun, avec des moments de retombées lourds dans la glèbe lourde et la sottise des sillons qui n'ont jamais appris que les parallèles. Sait-on bien, lorsque l'on sait savoir, qu'on ne saura pas même les tenants de toute sa faible science, et que ça n'a pas plus d'importance que la buée, aujourd'hui très humide après le froid, sur la vitre sensible de la rame. Je descends profond sous Paris et je veux écrire sous moi. Donner de la voix à ce qui se promène, ronge son chemin par-dessous. Remonter en deçà de petites paroles qui ne sont pas encore. Et déposer dans leur bol préparatoire aux parois lisses le ferment nécessaire. C'est là le signal obscur de cette entreprise. Je descends composer. Je m'installe pour une strophe de 9 vers avec changement au bout en vue d'une deuxième strophe d'à peu près autant de vers, je n'ai pas le temps de compter avec précision. Beaucoup de soldes sur les murs. Inventaire de ce qui est écrit sur les parois, lois, conseils, avis publicitaires non des stations. De ce qui est écrit dans les mains des collègues, tickets bleus, livres, journaux, passions de femmes. Ou sur une valise, Ori, O-R-Y, et Fragile Air Canada. Les nouveaux salaires et les nouveaux voyages, 36-17 salaires, et Lima, 4850 francs aller-retour de Paris. Le geste courbe de la ligne 5 pour s'apprêter à franchir la Seine avant Austerlitz. Les bureaux éclairés, les appartements. Le despotisme mal éteint de l'argent. Tout abus sera puni, mais où trouver assez d'innocents pour tous les postes de juge ? Quel wagon choisir à la correspondance ? Celui qui m'offre la sécurité peluche d'un très petit garçon avec sac à dos. Toute neuve encore, propre et luisante, qui sent le magasin. Je ne suis jamais passé à la station glaciaire sans dire à ma compagnie, si j'en ai une, sinon à moi-même, « Fais pas chaud tout d'un coup. » Les Américains s'installent, journal à ma gauche. Ils ont oublié le Cameroun, journal à ma droite. Qui est celle-là, livre à ma droite? Tous les yeux des voyageurs sont certains d'arriver, là où il est prévu qu'ils aillent, maigrir après les fêtes. N'être prêt à rien d'autre qu'à ganter les pensées tout venant dans des lignes qui sont perpendiculaires à l'axe de la ligne, puisque les sièges sont disposés de cette façon. Le silence, relatif, et le très mince effort musculaire des doigts qu'il faut pour marquer son papier. Chaque voyageur voyage avec sa façon de s'occuper. Celle-ci se coiffe, celui-ci songe, celle-là lit, celle qui se coiffait fouille, à présent dans son cartable à la recherche d'une barrette qui, prise entre ses dents, pend bientôt devant son menton. Deux bras levés, geste presque intime, qu'elle ne se permettrait peut-être pas l'été, les bras nus ici même. Puisqu'elle est seule, avec logis et avec ressources, je n'entendrai pas le son de sa voix. D'ailleurs, elle est descendue, tandis que montait une odeur de cire, inattendue, de cire pour les meubles, les parquets à chevrons et les escaliers. Je regarde les chevelures, celles qui ont été préparées avant. Moins d'une minute ou plus d'une heure durant une africaine. Ou je ferme les yeux pour mieux sentir le tremblement de la petite vitesse, ce que prend à mon corps l'accélération et ce que lui rend le freinage. J'y perds quelques sujets agréables à regarder discrètement. Léger tangage, pas de roulis, où je rouvre les yeux. Je voudrais être ce chewing-gum, cette bride de sac à main, ce cuir travaillé pour chausser 37 ce pied. Être ça et garder mon désir, le texte et l'argent du texte, et le sourire radiophonique. Rêver ni ne pas rêver d'être interrompu. Si je suis interrompu, le poème risque d'être foutu par terre. Pas si je suis interrompu par une question simple, passible d'un oui, non, je ne sais pas. Mais si je suis interrompu par une rencontre non fâcheuse, qu'est-ce que vous pouvez bien écrire là? Saurais-je alors répondre qu'il ne m'est pas possible de répondre? Ou répondre qu'il me faut, tout en parlant, continuer d'écrire? Et continuer de fait en annexant la parole de rencontre, notant la phrase qui passe comme un ange autour de la table de bistron ronde ou sirote Apollinaire, une phrase bel et bien qui me soit adressée. Les murs sont encrassés du noir de tunnel. Il n'y a pas la profession de ramoneur de tunnel ou d'époussiéreur. La Seine grise, quai de la gare. Le tunnel est le ciel, je le trouve arrondi, arc-en-ciel de gris, par-dessus la ville efficace et qui gaspille, travaille et chaume, les arbres ont l'air de chômer, de mendier. Je réponds à un bâillement par un bâillement rentré. Après Corvisart, je cherche à voir dans son bureau mon commanditaire, mais j'ignore si son bureau donne sur la rue. Le métro aérien est l'un des chefs-d'œuvre apolliniens les plus incontestables de Paris. Tandis que la montagne valaisanne me passe dans la tête, réminiscence coupante d'une prose de Pierre-Jean Jouve et d'une conversation. Le tabac du ballast, chose commune. Les néons d'un tunnel, chose négligée, de sens obscur, qui n'était pas dans le suivant. Il n'y a guère ici que les enfants pour regarder ce qui est à voir dans les tunnels. Du moins ceux qui ne sont pas trop occupés à manger du Nutella, comme s'ils y suçaient de l'immortalité, station Cambronne, je n'invente rien. Les sièges à coquilles jaunes, les écoliers dessus, ont l'air de mouillettes plantées là, tout sourire. C'est l'heure où sortent les classes, un gendarme avec deux soldats en treillis, l'arme au poing. Toute la population intéressante est là chez elle. On va d'un point A à un point B, change même un peu ses projets lorsqu'on est attiré par le paysage, ou qu'on sait par expérience ce qui bouge au-dessus de la galerie de taupe et le décor devant quoi ce qui bouge, bouge. Le verre est donc une unité qui roule, ou mieux, qui supporte de se laisser rouler comme le caillou de Démosthène, puis enfiler pour le collier le court moment suivant venu. Il est doué de vitesse et de nécessité. Il ne peut pas rater, c'est bien orgueilleux. Il ne peut pas ne pas donner au moins son minimum. Il ne peut être à ce point vide que rien ne se soit appuyé sur son dos, de tangible, c'est-à-dire d'inscriptible, durant le temps qui, pour cela, est imparti par la contrainte. Pourquoi, sous l'énoncé Strasbourg-Saint-Denis, je ne vois strictement jamais la ville de Strasbourg, ni la tête de Saint-Denis. La disparition dans le sommeil a lavé, rénové le matériel, séché le faitout qui peut reprendre du service comme neuf. Je fais mon marché souterrain, des affaires folles dans tout le magasin. Les petits-enfants du samedi matin sont seuls avec un parent, enfant de la garde alternée qui commence l'alternance par ce sas. Il me faut éplucher mes emplettes sur le champ, émincer, les faire blondir, roussir, blanchir et finalement revenir à la maison. D'ailleurs, je change. Je rapporte un chapeau noir et des femmes peut-être un peu plus élégantes que les jours ouvrés. La rivière insolente dans les oreilles avec guitare. Tandis qu'un porteur de baladeur n'écarte qu'un seul écouteur avant de sortir. Un sac s'ouvre, une main va à la poche. La République est au bout du tunnel. Mais qu'est-ce que j'entends du nom arriver là? Je suis aidé par la statue au rameau d'olivier. Les actes viennent par des entonnoirs. J'en fais des tonnes, et parmi toutes choses qui s'y trouvent concassées, rendues fluides au sein du bol élémentaire, instinctuel et culturé, les quelques montagnes que dresse sur mon chemin qui ne voudrait pas être du tout sanguinaire, tel ou tel désir de tel ou tel autre que je partage, qui me partage, me voue régulièrement à des minutes de reconstruction. Rien ne se perd et tout s'épuise, fond dans le café qui n'est déjà plus le café d'avant l'ajout, le vin avant le frémissement de chaleur et la cannelle, les lieux intimes internes avant la pénétration, la mémoire des paroles rejointes par de nouvelles paroles, le caractère avant de nouveaux trempages. Iseut avant Tristan et les cheveux d'Iseut avant le peigne qu'est la main de Tristan, les minutes longues avant le rendez-vous.
Ainsi s'achève le récital de Jacques Jouet. Pour faire plus ample connaissance avec sa poésie, on pourra lire 107 âmes aux éditions Segers et Le Chantier aux éditions du Limon. Il faut également signaler la parution récente d'un roman de Jacques Jouet, La montagne erre, erre comme république. Le gouvernement d'une république, trouvant le relief de son territoire d'une désolante platitude, décide de construire une montagne dans la périphérie de la capitale. Ce roman, La montagne erre, vient de paraître aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Mixage, Christian Prévost. Poésie sur parole, Jean-Baptiste Parra, Dominique Briffaut.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 février 1996.